Nous sommes à la dernière session intitulée « Un vécu quotidien digne de l'éternité ». Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout d'abord faire deux rappels. Pour ceux qui étaient là le samedi après-midi où j'ai donné le témoignage de ma guérison, il serait bon de rajouter deux ou trois petites choses qui m'ont échappé au moment où je le donnais. La première, c'est que au moment où j'ai été voir le psychiatre pour qu'il me prescrive un médicament qu'il a fait d'ailleurs, j'ai été guéri 3 jours après et je lui ai téléphoné lui demandant quel était ce médicament miracle, ou plutôt est-ce que le médicament pouvait être responsable de cette guérison. Et je lui ai demandé quel était le temps de latence, d'action donc du médicament. Il m'a dit, au bout de 3 ou 4 semaines, vous devez sentir un très léger mieux et la guérison prendra entre 5 et 6 mois avec ce médicament, tout au moins un début de guérison. Or, j'ai été guéri en 3 jours. Donc, il a reconnu que ce n'était pas le médicament et d'ailleurs, il était tellement surpris qu'il m'a demandé à ce que je le voie et nous avons parlé très franchement. D'autre part, ce jour où le 7 mai, où j'étais complètement délivré, la nuit auparavant, j'avais encore pris ma dose pleine de somnifères, et pour quiconque prend les somnifères, il sait très bien qu'on n'arrête jamais brusquement les somnifères, il faut commencer à décroître très lentement la dose, l'étaler sur plusieurs mois. Or, moi, j'ai arrêté d'un coup, car j'ai retrouvé le sommeil. Dans la journée qui a suivi cette matinée de guérison, j'ai dormi 1 heure, un sentiment que j'avais perdu depuis plus de 14 mois, et la nuit, lorsque la nuit suivante est arrivée, j'ai dit, je fais l'impasse, je tente de complètement abandonner les somnifères. Et depuis, j'ai dormi comme un enfant. Jamais j'ai eu besoin de somnifères. Le docteur a tellement été surpris qu'il m'a dit, il faut peut-être maintenir quand même quelques soins. De l'autre côté, il faut dire aussi que cette explosion de vie, après 14 mois de servitude épouvantable, s'est traduite par comme un pendule qui repartait de l'autre côté. C'est-à-dire, j'étais vraiment explosant de santé. Je courais jusqu'à 80 km par semaine de course à pied. Et il fallait que ça saute, on faisait ci, on faisait cela. Ma femme s'inquiétait et disait, oh là là, il est passé de l'autre côté. Alors, elle en a parlé au docteur qui a tout de suite prescrit une diminution de la dose des stimulants. Il me savait guéri, mais il savait qu'il fallait que je sois renfloué. Il m'avait prescrit des stimulants que je prenais. Et tout de suite, il a diminué de moitié la dose des stimulants. J'étais toujours aussi excité. Intenable. Alors, il a encore diminué par 2 la dose. Toujours aussi excité. Il a fallu qu'il arrête complètement tout stimulant. Et pour lui, c'était le signe que je n'avais jamais eu besoin de stimulant. Car si je donne à un être normal un stimulant, on ne le sentira plus. Donc, j'étais absolument guéri sur ce côté-là aussi. Tout médicament a disparu le jour même de ma guérison. Était devenu inutile. Vous voyez, la troisième chose que je voulais dire, c'est que, peut-être je l'ai rajouté, je m'en rappelle, mais je préfère le redire, c'est que peu de temps après ma guérison, j'apprenais que ce directeur mourait. Le directeur qui m'avait en quelque sorte chassé du projet. Et que les scientifiques se sont demandés pourquoi j'avais été renvoyé. Et ils ont fini par savoir, par l'intermédiaire du groupe de chrétiens qui se réunissait du côté anglais, et non pas du côté du projet, ils ont fini par le savoir, et ils se sont demandé, mais quelle est cette foi qu'il a dans ce Dieu que nous estimons dépassé, puisque ça lui a valu de carrément d'abandonner, de dire non, j'étais le seul à avoir résisté à ce directeur. Il régnait par la terreur dans le projet. J'étais le seul à lui avoir tenu tête, et il m'avait un peu mis sur un piédestal en disant « ce doit être un être spécial ». Ils attribuaient ça au fait que j'étais russe. Je vois pas le rapport, mais enfin, certains parlaient même de Stalingrad. Alors vous voyez, ils allaient loin. Hein. Bon, mais ça n'a rien à voir. C'est tout simplement que je savais où je me tenais et que je n'étais pas prêt à abandonner ce que le Seigneur me demandait faire pendant les week-ends et les vacances, même pour le prix d'un salaire diminué de moitié. Et d'être renvoyé du projet. Et maintenant, il s'emploie à me rapatrier en Angleterre. C'est long parce que la procédure par Bruxelles est très longue. Mais ils veulent me voir revenir maintenant. Voyez, c'est ce que je voulais ajouter sur cette maladie de la guérison, de l'histoire de la guérison et de l'après-guérison. Car j'ai retrouvé au niveau de la parole un approfondissement comme je n'avais jamais connu. Une ouverture, une facilité d'expression, une intensité de méditation comme jamais je n'avais connu auparavant. Sur le plan professionnel, j'ai retrouvé beaucoup plus de capacités que je n'avais jamais eues auparavant, même au meilleur temps lorsque je sortais des grandes écoles. Le Seigneur non seulement vous remet sur place, mais vous donne une prime. C'est ça l'épreuve. Là où le mal abonde, la grâce, il n'est pas dit qu'elle abonde, elle surabonde. Il y a un supplément, et c'est certain. Nous entrons dans le port de notre dernière session, et auparavant, j'aimerais rappeler ce qui a été vu dans les sessions précédentes, la création d'une perspective sur l'éternité. Nous avons découvert que la création est un phénomène permanent qui ne s'arrête pas à la fin de la sixième ère, c'est que la création matérielle qui s'arrête, que Dieu continue par la création spirituelle de l'homme. Et une création spirituelle qui n'est pas simplement un passage d'un état à un autre, mais un avancement, un devenir, une gestation. Un peu comme l'enfant dans le sein d'une mère, le monde entier est en gestation car Dieu veut l'amener à la perfection. Bien sûr, ce qui tombe en dehors de cet effort de perfection sera éliminé à la fin. Il ne restera que ce que le sang de Jésus, par le rachat, la rédemption universelle qu'il amène, amènera au niveau des rachetés, ceux qui auront accepté le salut. Et la nature entière suit derrière. Voilà la perspective que nous offre la parole et que Paul reprendra d'une façon extraordinaire, surtout lorsqu'il rappellera dans ce fameux chapitre 8 des Romains que l'univers entier attend, sait qu'il y a une finalité, il y a une espérance dans l'univers. Dans les pierres, les feuilles, les animaux, il y a une espérance. Pas du tout à l'image de l'espérance humaine, parce qu'ils sont des êtres complètement différents. Ils sont des réalités totalement différentes. Il faudrait mettre espérance entre guillemets, mais la création entière attend. Il serait trop long d'entrer dans le détail de ce que la science découvre aujourd'hui en matière d'attente. On a découvert dans les 5 dernières années que la matière n'est pas ce que nous en voyons, que les relations de cause-effet vont beaucoup plus loin, mais que la matière, c'est au niveau de l'élémentaire, de ce qu'on a appelé les atomes, les particules, il y a comme une mission. Quand les atomes se groupent, quand les particules se groupent, la science peut dire comment elles se groupent, mais elle est incapable de dire pourquoi, et maintenant elle a mis le doigt sur la question pourquoi, elle parle de psychomatière, elle dit il y a un esprit, une intelligence, au-delà de ce que nous pouvons comprendre, qui a mis une mission dans la matière, et elle s'organise en conséquence. Alors quand elle s'organise, elle passe par toutes les structures, depuis la structure atomique, jusqu'à la structure minérale, végétale, animale. Donc tout dans la nature sait, a une mission, il y a un prolongement. La nature sait, entre guillemets, que tout aboutit quelque part. Mais elle ne sait pas complètement tant que le maillon essentiel n'est pas posé, et ce maillon essentiel, c'est notre rédemption. À chaque fois qu'un être humain se tourne vers le Seigneur, se laisse régénérer, par le sang de l'agneau et la puissance de la croix, il y a un pas de plus de l'univers de fait vers cette finalité. C'est pour ça que la création entière attend dans cette impatience la révélation des fils de Dieu. Le fameux passage de Romains 8. C'est ce qu'on a essayé de montrer en cette première session et nous avons vu que cette spiritualisation de l'homme ne peut s'effectuer que par une mort. L'entrée dans la vie ne s'effectue que par une mort. Et c'était tout le rôle central de la croix dont nous avons vu l'effet fondamental qui est une guérison totale de l'être humain. Et nous avons vu que guérison, c'était une remise en mouvement. Ce devenir se repart grâce à la puissance de la croix. Tant que l'homme ne passe pas par la puissance de la croix, il a déraillé de ce mouvement, il se perd dans les sables et tout est voué à l'échec. Par la suite, après avoir vu cette perspective extraordinaire de la croix qui couvre toute notre histoire, depuis le commencement jusqu'à la fin, et qui cumule à Golgotha au niveau d'un événement historique, mais qui est bien plus qu'un événement historique, nous nous sommes arrêtés dans la pause entre la croix et la résurrection. Et nous avons fait en quelque sorte un bilan du sens de l'épreuve. Et ce bilan, nous l'avons attaché au fait que ça fait partie de notre existence, de ce devenir. La souffrance n'est pas un raté, la souffrance fait partie intégrante. Ce qui est un raté que la chute a amené, c'est la tyrannie de la souffrance. Et la croix ne retire pas la souffrance, elle retire la tyrannie de la souffrance. Tant que le monde sera, la mort, sommeil, existera, la souffrance élévatrice, accélératrice de ce mouvement vers la perfection subsistera. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doive rechercher la souffrance. Ça, c'est un déséquilibre de l'autre côté. Mais cette pause nous a été bénéfique dans le sens qu'elle a montré que toute épreuve a un sens. Parce que Dieu met derrière cette épreuve un effort de raffinement de nous-mêmes, de progression. J'ai appris beaucoup plus par les épreuves de mon existence que par les périodes tranquilles. J'ai progressé beaucoup plus à travers les épreuves qu'à travers les moments où tout allait comme sur des roulettes. Et hier, nous sommes descendus un peu plus dans l'arène de ce combat que nous menons tous les jours, ce qui n'est pas un combat contre les forces du mal, puisque ce combat a été mené sur la croix, seul endroit où la victoire a été remportée. Nous sommes entrés dans un combat où la victoire était déjà remportée, nous sommes entrés dans une victoire. Et nous avons vu ce que cela coûtait, ce que cela signifiait au niveau profond de notre expérience humaine, c'est-à-dire pas seulement nos péchés effacés, mais nous mourant, étant morts avec lui sur la croix. C'était le commencement. Alors certains pourraient se dire, en ce qui concerne ce dernier chapitre, mais puisque le commencement est bien réalisé, puisque la croix a tout fait, maintenant, dehors la croix, maintenant nous vivons dans un univers extraordinaire. Certes, frère, vous avez dit il y aura des souffrances, mais ça va, maintenant, on peut se passer de la croix, on a le bon tampon sur le bon passeport pour aller aux cieux, plus de problème. Ça devrait aller tout seul. Et si le monde s'écroule, tant pis pour lui, il n'a qu'à accepter Jésus. Hein. S'il ne veut pas accepter, ben, tant pis pour lui, il n'a qu'à s'écrouler. Moi, je reste dans mon petit coin, je file tout doucement vers le ciel. Eh bien, loin s'en faut. J'ai dit, et c'est le thème de Pâques, que la croix projette son ombre sur tout notre devenir, jusqu'à la fin. Et la croix continue de projeter son ombre une fois que le commencement a été proprement entamé. Une fois que Pâques est vécu et que nous ressuscitons réellement, à ce moment-là, nous entrons réellement dans le chemin du devenir et la croix nous suit, elle est là. Pourquoi, comment? Je vais vous dire une chose. Vous avez tous vu des guignols, des clowns. Vous avez tous vu des imitateurs de ceci, de cela, des chansonniers comme on les appelait dans le temps. L'art d'imiter est une faculté humaine qui dépasse même celle du singe, dans le raffinement. Et je peux vous dire que, et vous pouvez peut-être tirer la même conclusion, que jamais autant que dans la vie chrétienne, il y a une possibilité de simulation. Il est difficile pour certains de simuler le bouddhisme, de simuler être un marxiste, de simuler un incroyant. Et entre parenthèses, je vous signale que l'homme n'a pas été fait pour ne pas croire, mais pour croire. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus difficile d'être un incroyant qu'un croyant. Comme quelqu'un disait, c'est incroyable ce qu'il faut croire pour rester un incroyant. C'est incroyable ce qu'il faut croire pour rester un incroyant. Parce que ce n'est pas une position naturelle. L'homme a été fait pour croire et non pas pour rester un incroyant. Mais lorsqu'on est croyant ou se prétend comme tel, on entre dans une nouveauté de vie et jamais il n'est aussi facile, n'a été aussi facile que d'imiter une nouveauté de vie au lieu de la vivre. C'est incroyable. Et de se prendre à son propre jeu, et de finir par croire qu'on est chrétien, que l'on vit chrétiennement, parce qu'on en a toutes les apparences. Alors comment savoir que je suis dans une apparence ou dans une réalité? Quelquefois, on se surprend à simuler quelque chose. Hein? Les embrassades entre chrétiens. Ouh, celui-là, j'y en veux, mais quand même, je vais embrasser chrétiennement. Et puis, toutes sortes de simulations. On se dit, il faut montrer le visage d'un chrétien. Sinon, que dira le monde? Et quand le péché vient frapper le monde chrétien, vite, on le dissimule. Il ne faut surtout pas montrer la face du péché dans l'Église. Toujours dissimulation, simulation. Comment se fait-il? Eh bien, parce que l'adversaire, qui est le roi de la simulation, mensonge étant pseudo, c'est-à-dire prendre la vérité, prendre un mensonge et lui donner l'apparence de la vérité, voilà l'astuce de l'adversaire, eh bien, va se glisser, essayer d'empêcher cette progression, à partir du moment où le commencement a été bien négocié, d'empêcher cette progression qui débouche dans l'éternité, dans la perfection, en forçant quelqu'un à simuler. Comment est-ce que je vais trancher ce dilemme? Je ne pourrai pas le faire par moi-même, c'est une fois de plus la croix qui va le faire. Et je vous invite à cet effet à lire un passage très connu, vous voyez, je ne vous sors que des passages connus, vous avez relu des centaines de fois. Celui-ci se trouve dans Matthieu, au chapitre 16, les versets 21 à 26. Et nous allons voir notre propre image dans cet homme que nous connaissons si bien, Pierre. Lisons un peu ce récit. Matthieu 16, versets 21 à 26. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sa vie, sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? On l'a reconnu, c'est Pierre. Pierre, c'est nous. Peu de temps auparavant, il était le seul, le premier, à avoir dit que Jésus était le Fils de Dieu. Et cela, il ne pouvait pas le faire lui-même. À un moment donné, cette capacité d'esprit dont je parlais tant hier s'est trouvée remplie d'une présence fugitive de l'Esprit de Dieu. Et grâce à cette présence de l'Esprit de Dieu, il a pu dire que Jésus était le Fils de Dieu. N'essayons pas de faire avouer au monde que Jésus est le Fils de Dieu. Ne nous étonnons pas qu'à la limite, le monde accepte que Jésus était un prophète remarquable, était un homme de son temps qui a eu beaucoup d'impact. Parce que le monde ne peut pas voir Jésus comme fils de Dieu, si ce n'est donné par l'Esprit. Donc essayer de convaincre quelqu'un que Jésus est le fils de Dieu, c'est perdre son temps. Il faut que, par notre vie, et peut-être par des paroles que l'Esprit met dans notre bouche, la conviction vienne par une visite de l'Esprit dans notre interlocuteur. À ce moment-là, il reconnaît que Jésus est le fils de Dieu, et tout le reste en suit. Parce qu'à partir du moment où on reconnaît que Jésus est le fils de Dieu, on en accepte toutes les implications, que je suis fait à son image, que je ne peux pas aller de cette image défigurée à l'image réelle sans passer par une mort, et voyez, tout le reste suit. Pierre était un peu dans le même dilemme. Mais Pierre, entendant parler de la mort, avait pourtant entendu vaguement déjà Jésus dire quelque chose à ce sujet, mais cette fois-ci il entend en termes concrets. Et immédiatement, lui qui avait été visité par l'Esprit, pétri de bonnes intentions, sur la lancée de cette visite de l'esprit qu'il n'avait même pas reconnue comme telle, il n'avait pas, lui, discerné qu'il était visité par l'esprit, pensant que ça venait de lui-même, pense par la suite être dans la bonne ligne en disant à Jésus que cela ne t'arrive certainement pas. Tu vas pas mourir comme ça. Tu es vraiment fait pour être roi d'Israël. Le sauveur du monde, c'est d'abord rétablir un état d'Israël fort, chasser l'occupant et ensuite rayonner à travers le monde. Voyez comment il le voyait lui. Pierre donc le reprend. Et la réaction de Jésus est extrêmement violente. Arrière de moi, Satan. Qu'a-t-il voulu dire par là? Rappelons-nous ce que nous avons dit à propos de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce qui est bon, c'est ce qui est conforme au plan divin. Une parole est bonne, si elle est conforme par la réalité qu'elle découvre au plan divin. Dire à cela ne te plaise, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas, c'est se mettre en travers du plan divin, donc c'est le mal. C'est épouser la cause de Satan. C'est grave. Le mal, c'est pas forcément assassiner quelqu'un, faire sauter une maison, sombrer dans la corruption, la violence. Oui, ça, c'est l'ultime route du mal. Mais ça commence toujours au niveau des intentions, même les bonnes. Un jour, à la suite d'une conférence en Normandie, un père jésuite m'a interpellé en disant « C'est remarquable ce que vous dites, mais il y a une chose que je ne peux pas accepter. » Je ne peux pas accepter que Jésus refuse ce qui est bon en nous. Eh bien, c'est pourtant cela. Il n'en a que faire de ce qui est bon en nous. C'est pollué par notre chute. Nos bonnes intentions sont centrées sur nous-mêmes, ce qui nous semble être meilleur pour le Seigneur. Voilà où arrive le bon de l'homme. Et cela, avec le mauvais, est crucifié sur la croix. Que ce soit le bon ou le mauvais. Et Pierre l'apprend à ses dépens. Ce qu'il venait de dire était rigoureusement conforme à l'idée de Satan. Et on pourrait reprendre la tentation dans le désert, elle suivait la même ligne. Essayez, non pas de sortir une énormité, mais de prendre la parole, de prendre même l'aspiration à la royauté de Jésus, de la domination dans le monde, mais à ses termes à lui. Alors que Jésus savait qu'il allait être le roi du monde, qu'il était, et qu'il allait être couronné comme tel, que sa présence domine le monde parce que tout a été fait par lui, en lui et pour lui, mais les termes proposés par Satan étaient diamétralement opposés à la volonté divine. Les bonnes intentions de Pierre, aussi bonnes fussent-elles, étaient opposées à l'intention divine. Donc, il était, de ce fait, dans le sillage de Satan. Il n'y a pas de zone intermédiaire. Quelle que soit la religiosité qu'on met comme barrage entre les deux, elle bascule ou d'un côté ou de l'autre, mais il n'y a pas de position neutre. Ou l'on est conforme au divin, ou l'on est du côté de l'adversaire. Et l'adversaire ne veut pas dire forcément être possédé, jamais de la vie. Le fait que j'écoute cette chair et ce sang dont nous parlions tant hier, ce psychisme non soumis à la croix, le fait que je me fasse une image de moi-même, que je cultive cette image, que je veuille la projeter dans l'église où je suis, dans la société, la famille où je suis, en disant voilà ce que je voudrais être, et aussi bonne soit-elle, aussi louable soit-elle, cette image est en travers du plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, c'est pas notre image, c'est l'image de Christ en nous. Voilà le plan divin. Alors de ce fait, nous avons à réaliser qu'une seule porte nous est offerte pour passer de cette fausse image de nous-mêmes, souvent tellement subtile qu'elle nous trompe tout au long de notre vie. J'ai connu des personnes qui, durant toute une vie, avaient projeté une image très louable de bons chrétiens dans leur assemblée, et parce que les dernières heures étaient arrivées, la lumière de l'esprit a jeté une clarté telle qu'elles ont renié complètement cette image. Elles ont vu à quel point elle était en travers de ce que Christ avait préparé pour eux. Et ils se sont réconciliés avec leur Dieu. Il n'est jamais trop tard. Mais vaut mieux tôt que tard. Et Pierre va la prendre à ses dépens. Il va aller jusqu'à renier le Seigneur. Il va poursuivre son image. Et il arriva à un mur. Et lorsqu'il verra l'œuvre de la croix, il se repentira amèrement. Se repentir, en fait, deviendra une repentance. Le dos tourné, en grec une métanoïa, un demi-tour complet. Le dos tourné au passé. À ce moment-là, j'en suis complètement délivré. C'est le commencement, le vrai, le seul, dont nous parlions hier. Mais encore faut-il que nous marchions dans cette attitude de dos tourné au passé. Et c'est pour cela que Jésus continue son enseignement, comme nous l'avons lu. Il reprend, en quelque sorte, un peu comme une balle hors bond, ce qui venait de se passer, et nous invite, nous interpelle à travers ses paroles, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et je voudrais insister sur ce « charge de sa croix ». Parce que trop de choses ont été dites sur ce domaine. On a cru que c'était les souffrances que nous avions dans le monde, quelle croix apporter. Mais Jésus a porté nos souffrances. Pourquoi refaire ce que Jésus a fait? D'autres disent, ah mais non, c'est la pénitence que je m'inflige parce que je ne suis pas digne de lui. Alors, quelquefois, je me rabaisse en me rappelant qui je suis. Homme vient de humus, humus vient de terre, je ne suis que poussière. Et encore une fausse théologie. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons y entrer, mais auparavant, reprenons la phrase telle qu'elle est. Si quelqu'un veut venir après moi, venir, comme nous le savons, c'est un verbe d'action. Marcher après Jésus. Ah, Jésus marche? Mais je croyais qu'il avait quitté la terre, qu'il était tranquillement assis à la droite du Père. Qu'est-ce que ça veut dire, venir après lui? Ah, certains diraient, oui, mais ça rappelle le fait qu'il était sur terre et que nous devons suivre ses traces. Ah ben, autant aller à Israël et refaire tout le pèlerinage. Ça n'a rien à voir avec cela. Nous ne voyons plus Jésus en termes humains, c'est terminé. On l'a lu hier dans 2 Corinthiens 5. Je le relis encore, allez. C'est jamais trop inutile de revoir cela. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus de cette manière. Parce que si quelqu'un est en Christ, eh bien, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, qu'est-ce que suivre Jésus? Qu'est-ce que c'est que cette marche de Jésus? Eh bien, tout procède de cette vision qui nous a animés depuis le départ, de cette perspective du devenir. La réalité de Christ est aussi en devenir. Christ n'a pas fini d'accomplir sa mission au niveau du corps. Vous ne croyez pas? Nous avons lu 1 Corinthiens 15, hier, à propos précisément du deuxième Adam. Mais si nous reprenons ce chapitre, au chapitre 15 donc, nous pouvons lire à partir de 20. « Et maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Et puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toute chose lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » Il y a même une gestation au niveau du divin. L'eussiez-vous cru? Jésus n'aura accompli sa mission dans la phase actuelle que lorsqu'il aura détruit tout ennemi, et lorsqu'enfin l'épouse sera intégré à lui, réuni à Dieu le Père en lui, aux noces de l'agneau. À ce moment-là, tout sera remis à Dieu, et comme disent d'autres traductions, Dieu sera enfin totalement Dieu, dans le sens que tout sera accompli dans cette progression vers la perfection. Voyez, quand il dit « tout est accompli », c'est au niveau terrestre, tout est fait, il n'y a plus rien à faire dans notre contexte terrestre. Mais l'œuvre continue, il amène tout à perfection, et tant que le dernier de ceux qu'il connaissait à l'avance ne soit pas arrivé à la perfection, quelque chose reste à faire. Lorsque tout est accompli, c'est ça le sens du temps avec Dieu. Ce n'est pas une histoire d'années, de siècles, d'heures, de secondes. C'est une histoire d'événements. Il y a toute une liste d'événements pour que les choses arrivent à perfection. Lorsque tous les événements seront accomplis les uns après les autres, le temps cesse. Mais tant qu'il reste un événement, le temps existe toujours. Les bornes du temps pour Dieu, ce sont les événements. Nous l'avons découvert au moment où Israël est revenu dans son territoire d'origine et qu'il s'est érigé en État d'Israël. C'était une borne formidable. Mais je vous ferai remarquer que la borne centrale de notre temps, c'est la croix, événement de Golgotha. Lorsque tout est accompli, à ce moment-là, le temps cesse d'exister, la perfection est arrivée. Car le temps est signe d'un manque de perfection. Tant que le temps existe, la perfection n'est pas là. Et même Christ, il faut qu'il ait atteint cette voie vers la perfection par ses souffrances. Hébreux nous le répète. Au chapitre 2, il est dit ceci, au verset 10 et 11. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, Jésus-Christ, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Même Christ est élevé à la perfection. L'eussiez-vous cru? Christ étant sur terre, dans une nature de fils de l'homme, était dans un état de, excusez-moi le mot, quasi-perfection. Le fait qu'il ait un corps mortel, et lorsqu'il était né, il subissait les mêmes lois que nous, chaque seconde de respiration qu'il se permettait le faisait brûler. En quelque sorte, son corps vieillissait suivant les lois d'entropie du corps humain. Son corps brûlait, donc était soumis au temps. Et en cela, ce n'était pas la perfection. La perfection Jésus, c'est lorsque son corps est glorifié. Mais pour qu'il fût glorifié, il avait fallu qu'il passe par les souffrances. Et c'est ce que la parole dit. Il a été élevé à la perfection à travers les souffrances. Il a ouvert la voie et ce sera la même chose pour nous. Donc voyez, la perfection, c'est loin là-bas la finalité. En attendant, c'est le cheminement, un cheminement qui aboutira envers et contre tous. Et ça, c'est le message d'espoir au niveau de notre vie de tous les jours. Parce que nous avons mis le pas dans cette vie nouvelle, que la résurrection entre progressivement à nous et s'étend à nos corps mortels, comme le disait Romains 8, 11 hier, eh bien, nous sommes en route pour cette perfection, quelles que soient les chutes qui nous attendent, les épreuves et les hauts sommets aussi, inexorablement, Dieu nous fera parvenir en Christ à cette perfection. C'est inévitable. Alors, de ce fait, nous sommes invités à voir ce cheminement derrière Jésus comme la marche réelle. Car lui se forme un corps. À chaque fois qu'une âme se tourne vers le Seigneur, ça fait un de plus qui rejoint ce corps incomplet pour le moment, un corps en pleine gestation, un peu comme l'enfant dans le sein maternel, en pleine gestation jusqu'au moment des noces de l'agneau. Et c'est cela la marche derrière Jésus. Ce n'est pas du tout le suivre dans ses pas lorsqu'il était sur terre et imiter Jésus. Vous savez, le mimétisme, j'en parlais tout à l'heure. Il y en a qui imitent Jésus. Et quand Paul dit « imiter », il faut voir beaucoup plus qu'un mimétisme. Le mimétisme peut nous entraîner très loin dans l'illusion. On ne peut pas imiter quelqu'un simplement pour faire comme lui. Nous l'avons vu au niveau de cette parole de « Marie, aimez vos femmes », comme Christ a aimé l'Église. Cette traduction du « comme » dans « second » appelle au mimétisme. La vraie traduction « aimez vos femmes du même amour dont Christ a aimé l'Église ». Il faut que je sois envahi par l'amour de Christ pour réellement aimer ma femme. Donc c'est plus une question de mimétisme, c'est une question de présence de Christ en moi. À ce moment-là, je me comporterai comme Christ, j'aurai les sentiments qui étaient en lui. Chose que le pasteur nous a si bien rappelé tout au long de ses sessions. Je ne peux pas imiter Christ par mon désir. Pierre voulait imiter le vrai statut de disciple en lui disant « Non, ça ne t'arrivera pas, voyez le désastre. » On n'imite pas Christ, on le fait entrer, on le laisse entrer en nous. On devient progressivement semblable à lui, transformé d'image en image, et au fur et à mesure que cette transformation s'effectue, je deviens de plus en plus son imitateur. Voilà la véritable imitation, qui est en fait intégration, duplication totale. Voilà. Alors à ce moment-là, c'est cela la marche. Dans cette marche, je vais croître avec le corps de Christ. Ce n'est pas seulement une marche individuelle. On ne marche pas tout seul, on marche dans un corps. Car c'est le corps qui est en gestation, et notre gestation n'est pas possible s'il n'est pas faite dans un corps. Prenez un enfant en pleine gestation, par une opération chirurgicale, enlevez-lui une main, ou s'il a déjà l'embryon est suffisamment avancé. Eh bien, essayez de faire vivre cette main dans un milieu favorable. Eh bien, cette main ne croîtra pas de la même façon qu'elle aurait progressé dans le sein maternel attaché au corps de l'embryon. Détachée du corps, elle dépérira. Donc, on ne peut pas s'isoler par rapport au corps de Christ et espérer survivre. On ne participe plus à la gestation, on décline. Mais le Seigneur, dans sa grâce, nous rappelle. Et je vous ai raconté un des sens de l'épreuve dans laquelle je vivais. Ce n'était pas parce que j'étais hors du corps de Christ. J'y étais, je suis toujours membre de l'église anglicane. Je suis un anglican, pour vous faire plaisir. Un anglican de la paroisse d'Oxford. Et je faisais partie d'une église, mais je me comportais comme un être marginal. Lorsque je partais en service pour le Seigneur, je négligeais leurs prières. Je voulais bien qu'ils prient, mais je ne voulais pas qu'il y ait un effort spécial. Je ne pensais pas avoir un ministère. Je répondais à des invitations pour donner raison de ma foi, c'est tout. Mais cette attitude subtilement fausse m'a progressivement marginalisé par rapport au corps de Christ, et j'étais juste dans la ligne de feu de l'adversaire. Et j'étais descendu en flammes. Voilà. Donc, c'est une leçon pour nous. Le suivre, c'est le suivre dans ce qui suit la croix. C'est terminer les mouvements de Jésus sur terre. Nous allons beaucoup plus loin. C'est tout un corps en gestation, le suivre. C'est dans cette gestation, ce devenir. C'est vivre au diapason de toutes les étapes du corps de Christ, avec ses sommets, avec ses écroulements, ses aveuglements, ses errements. Et ses redécouvertes dans des réveils spirituels. À la veille duquel nous sommes en ce moment, je le crois de tout mon cœur. C'est vivre tout cela, c'est cela. C'est vivre au niveau de son assemblée locale. Peut-être on est en désaccord avec les termes de la dénomination dans laquelle nous sommes. Dieu ne nous invite pas à voyager d'une assemblée à l'autre, et puis finalement, d'atterrir dans celle qui nous convient le mieux. Ce n'est pas un restaurant, une église. On ne change pas de restaurant parce que le menu ne nous plaît pas. On vit l'histoire de son Église, même si elle est fourvoyée, on vit avec elle. Mais on vit dans la vie de l'Esprit. Et Dieu peut amener le réveil dans cette petite Église fourvoyée si nous sommes fidèles à sa parole et à cette attitude qui consiste à le suivre dans cette gestation du corps. Ça prend un temps. Mais vous savez, nous vivons des temps où l'Église va connaître un renouveau extraordinaire. Un renouveau qui sera beaucoup plus que ce qu'on appelle aujourd'hui renouveau charismatique, qui va aller beaucoup plus loin, qui sera un revival, un retour à la vie, comme on dit en anglais. Un retour à la vie. Et ce sera universel. C'est un vent de l'esprit qui va souffler beaucoup plus que le vent aujourd'hui, ou tous ces jours, et qui va réveiller l'Église d'une façon telle, parce qu'il est temps qu'elle soit une lumière dans ce monde qui vraiment dérape en ce moment. Comme il n'a jamais dérapé. Il est temps. Il est temps que les divisions, les barrières cessent. Certes, il y aura plusieurs expressions de la foi chrétienne, comme toujours, c'est nécessaire. Mais nous ne serons plus à chercher un œcuménisme au niveau d'un rouleau compresseur sur toutes les différences dogmatiques. Nous ne serons plus dans cet état-là. Le clergé va être pris de vitesse par ce qui va se passer à la base. Et le clergé sera happé dans le mouvement et sera aussi renouvelé. C'est ça les réveils. Les réveils commencent toujours par la base, jamais par le sommet. Ça, c'est un vrai réveil spirituel. Et dans ces réveils, l'Église va connaître une dimension nouvelle. Car en ce moment, même au niveau du renouveau charismatique, combien parmi nous ont entendu parler de ce renouveau ? Levez la main. Donc pas mal. Eh bien, vous savez, vous êtes en pays, je ne sais pas si la Suisse est majorité protestante ou autre, c'est moyen-moyen. Bon. Eh bien, en France, où je vis à l'heure actuelle, vous savez que c'est un pays à majorité catholique. J'aime beaucoup les catholiques, mais je déteste le système dans lequel ils sont. Et le système dans lequel ils sont a publié en 75, Cahier du Renouveau. Discours de Paul VI aux membres du 3e congrès du renouveau charismatique catholique. Le résumé, le voilà. Et d'ailleurs, il est intitulé « Gaudete in Domino ». C'est une exhortation apostolique du 18 mai 75. Voilà ce qui est dit. « Il faut reconnaître une intuition prophétique chez notre prédécesseur Jean XXIII, envisageant comme fruit du Concile une sorte de nouvelle Pentecôte. Nous-mêmes avons voulu nous situer dans la même perspective et dans la même attente. Non que la Pentecôte ait jamais cessé d'être actuelle tout au long de l'histoire de l'Église. Mais si grands sont les besoins d'une humanité portée à la coexistence mondiale et impuissante à la réaliser, écoutez bien cela, qu'il n'y a pas de salut pour elle, ce qui va parler de la croix, qu'en une nouvelle effusion du don de Dieu. Que vienne donc l'Esprit Créateur pour renouveler la face de la terre ? Voilà. Eh bien, ça explique la stagnation du renouveau charismatique. Les ingrédients sont là. La croix est une fois de plus écartée du chemin. C'est une nouvelle Pentecôte qui va régénérer le monde et amener la société à reconnaître Jésus-Christ. Jamais de la vie. La croix, seulement la croix. Et la raison pour laquelle il y a stagnation du mouvement, c'est parce que la croix a été écartée et beaucoup de gens arrivent dans le renouveau, font connaissance avec cette joie de l'esprit, ce renouvellement, et quand on leur dit « Mais êtes-vous né de nouveau ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Moi j'ai ma bonne religion. » Moi, je suis catholique, moi, je suis réformé, moi, je suis ci, moi, je suis ça. Mais qu'est-ce que vous me parlez de ça ? Ce qui compte, c'est le Saint-Esprit. Vive le Saint-Esprit ! Et hop, et on s'étale par terre. Et on n'avance plus. Parce que l'œuvre de régénération ne s'est pas faite. Rappelons-nous que l'Esprit chemine avec l'homme, sans nécessairement que l'homme soit régénéré. L'Esprit de Dieu est l'architecte de l'univers et de l'histoire. Il accomplit le dessein divin à travers les événements du monde, car Dieu est en contrôle des événements du monde. L'Esprit chemine toujours, a toujours cheminé avec l'homme, sans nécessairement que l'homme l'ait reconnu comme tel. Deuxième étape, l'Esprit entre en nous, au moment où il le désire, où il le veut lui, et nous éclaire sur notre véritable condition. Nous acceptons l'œuvre de la croix, il entre en nous, et il prend un logement définitif, si j'ose dire, et non pas temporaire, comme c'était avec Pierre, du temps de Jésus. Et, troisième étape, il nous recouvre d'une effusion de puissance qui est la Pentecôte, et qui nous permet de faire face au déchaînement des puissances célestes pour cacher par le mensonge la réalité de la croix, et qui nous permet d'accomplir la mission de l'Église. Voilà, c'est tout le cheminement qui nous est retracé dans ce qui s'est passé au moment du déluge. Rappelez-vous, cette colombe est partie, est revenue, n'a pas trouvé de place. Deuxième fois, elle est partie, est restée un petit moment, elle est revenue, elle a rapporté une branche, et la troisième fois, elle est partie et restée pour de bon. C'est toute notre histoire. L'Esprit de Dieu ne trouve pas de place, n'a jamais trouvé de place dans une humanité qui refuse le divin. Quand le divin l'accepte, déjà, quand le divin est accepté, c'est au niveau des balbutiements d'une religion qui veut montrer que la loi ne peut sauver l'homme, la religion d'Israël. Et il y a des séjours de l'Esprit dans l'histoire d'Israël, au niveau des prophètes, des rois et de Pierre, au moment où il dira « Jésus est le Fils de Dieu ». Et un beau jour, lorsque la croix et la résurrection sont achevées en ce qui concerne Christ, alors l'Esprit descend définitivement dans le cœur de l'homme pour y séjourner. Il ne le quittera que dans un effort délibéré de l'homme de renier l'œuvre de la croix et de dire « ce n'est pas l'œuvre de la croix,
qui a provoqué ce changement, c'est Satan. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Attribuer à Satan ce qui vient de l'Esprit. Mais rares sont ceux qui le font. Je prie Dieu que personne, au moins ici, ne parvienne à cette extrémité. Malgré nos chutes, l'Esprit de Dieu est là, attristé, il nous relève par la lumière qu'il projette sur la croix, seule puissance pour relever l'homme. Voyez, c'est tout cela, suivre Jésus dans cette gestation, dans ce corps qui grandit. Voilà. Alors, maintenant, nous pouvons attaquer la suite. Nous pouvons venir après lui. Mais alors, il y a des conditions. Il faut renoncer à soi-même. Nous avons vu hier à quel point le soi-même, et nous l'avons encore vu ce matin, à quel point le soi-même, le moi-je, est un obstacle. Car il a des intentions, même très bonnes, parce qu'elles sont les nôtres et non pas celles de Dieu. Ce sont des intentions opposées au plan de Dieu. Il faut renoncer à cela. On le constate, on fait un effort pour cela. Je parlais avec un frère hier, il avait fait des efforts pour renoncer à beaucoup de choses. Il vivait tendu, les dents serrées. C'est encore le moi, dans un dernier assaut, qui essaye de se justifier en disant « Oui, je peux arriver à me renoncer à moi-même. » Eh bien, même ça, on ne le peut pas. Parce que lorsqu'on l'on dit, lorsqu'on décide de renoncer à soi-même, c'est là que tout commence, tous les problèmes commencent, parce qu'on ne peut pas le faire par soi-même. Alors, il reste la dernière invitation de Jésus, qu'il se charge de sa croix. Et à ce moment-là seulement, il me suivra. Eh bien, nous sommes au centre de ce que j'ai à vous dire ce matin. Cette croix nous suit jusqu'à la fin. Pourquoi ? La croix est le lieu où nous avons été crucifiés avec Christ. Rappelez-vous l'exemple de ce cambrioleur hier que je vous ai donné, que je neutralise en imposant sur lui la puissance d'une arme en attendant que la police arrive. Et il dit, si tu bouges, je tire. Et lui, dans toutes ses velléités agressives, est complètement neutralisé parce que la puissance de cette arme lui fait peur. Il en va de même en ce qui nous concerne. Ce moi-je, une fois qu'on l'a mis de côté, il va ressortir la tête. Vous savez, le baptême d'eau, c'est ça. C'est le symbole d'une nature morte qui disparaît dans le fond de la rivière. Mais rappelez-vous qu'il surnage souvent, hein, ce moi. Il ressort souvent. Mais cette fois-ci, différence fondamentale, nous avons une puissance, une arme pour le neutraliser, c'est la croix. C'est ni notre volonté, ni la puissance du Saint-Esprit. Attention, attention, attention. Combien d'erreurs se glissent derrière cela? Avec ce renouveau de l'Esprit, non seulement dans le mouvement du renouveau, mais ailleurs, on attribue à l'Esprit un rôle qu'il n'a pas. Ce n'est pas l'Esprit qui nous aide à nous relever. Il projette toujours un éclairage, mais c'est toujours la puissance de la croix qui neutralise, qui réduit à néant ce qui n'appartient pas à Dieu. Ce n'est pas l'Esprit. L'Esprit éclaire. L'Esprit est toujours le communicateur de Dieu. Il faut bien se le dire et ne pas vivre dans ces théologies de l'Esprit. Maintenant, l'Esprit fait tout. Maintenant, même on écarte Jésus-Christ et Dieu le Père. Il n'y a plus que le Saint-Esprit. Voilà où on en arrive. Alors on assiste à des réunions où c'est l'adoration du Saint-Esprit et tout tourne autour de cela. Et le Seigneur remettra de l'ordre même là-dedans, car les réveils, c'est la remise en ordre de la maison de Dieu pour commencer. Alors, la croix est là, nous rappelant que c'est sur cette croix que j'ai été crucifié et qu'à chaque fois l'Esprit de Dieu m'éclaire et me montre, oh, une forme combien subtile du moi qui résiste encore, qui cherche à se glorifier, qui cherche à paraître. Rappelez-vous ce que nous avons lu hier, notre vie est cachée en Christ. On n'est pas là pour montrer que nous sommes des enfants de Dieu. C'est Jésus qui le montre à travers nous, aux autres. Ce n'est pas à nous de le montrer. À partir du moment où je fais l'effort de le montrer, je joue un rôle, je simule. Et voilà comment commence la simulation. Et en simulant, eh bien, je fortifie ce moi, et tôt ou tard, le Seigneur permet, à travers un test, une épreuve, me permet de réaliser à quel moment point ce moi a été un obstacle. Alors, cette croix me suit, et je la porte. Parce que s'il était resté derrière moi, il faudrait à chaque fois que je refasse la course en arrière, à chaque fois que je vois que ce moi est encore en train de surnager. Elle me suit parce que sans cesse, j'ai une source de puissance près de moi, une source de puissance de mort. C'est ça la vraie puissance avant la vie. Une source de puissance de mort en ce qui concerne le passé. Le moi, c'est le passé. Ça n'a aucune part avec l'éternité. Nous l'avons lu hier. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume. Ce moi, je le repousse. Et alors, je voudrais faire une parenthèse ici. En ce qui concerne la guérison intérieure, je l'ai promis, je la tiens. La guérison intérieure procède de la constatation que nous sommes marqués, tout au moins certains d'entre nous, par notre passé, par les chocs que nous aurions eus, chrétiens ou non, des chocs à la suite d'émotions violentes, chocs affectifs, brutalité physique, brutalité au niveau du psychique, peu importe, on pourrait faire une longue liste. Et bien avant que les chrétiens ne s'en mêlent, car ils ne s'en mêlent que maintenant de cela, déjà Freud et ses disciples l'avaient remarqué. Et leur base était que celui qui souffre n'a jamais tort, n'a jamais eu tort. C'est toujours les circonstances, à commencer par les parents, c'est toujours les parents qui ont tort, les parents, les circonstances, etc. Il faut déculpabiliser l'individu, et il faut surtout lui montrer qu'il n'est pas si mal que ça, qu'on va pouvoir recoller les morceaux, et on part dans un long et minutieux travail de reconstitution de l'être, de restauration de qui ? Ben du premier Adam. Du premier Adam. Les disciples de Freud ont débarqué, tout au moins certains d'entre eux, aux États-Unis. J'en cite un, Heinrich Fromm, Carl Rogers, qui est un Américain, de souche d'origine anglaise, et tant d'autres. Et petit à petit, ont canalisé, un peu comme Lénine a canalisé la philosophie de Marx, ceux-ci ont canalisé la théologie de Freud, la philosophie de Freud, dans une direction basée sur l'étude du moi. Alors, moi se dit self en anglais, c'est le selfisme, la religion du moi. Et je vous ai parlé hier d'un livre qui dénonçait cet examen, comme on dit en français, de son nombril, c'est-à-dire de soi-même. Cette nouvelle religion du moi, que j'ai appelée le nombrilisme, à caractère aigu quelquefois, eh bien, cette philosophie du moi a canalisé le freudisme dans un examen approfondi d'un versant de la nature humaine qui s'analyse, mais pas de l'autre. Je vous rappelle, je l'ai déjà dit plusieurs fois, la nature humaine, c'est le visible et l'invisible. L'homme est la seule créature qui se tient à la charnière des deux royaumes. Le visible est temporel, l'invisible est éternel. L'homme, dans son côté visible, c'est sa biologie. Son invisible, c'est cette capacité d'esprit qui devient vivante lorsque l'esprit de Dieu entre. Il devient un esprit vivifiant qui rayonne vers le psychisme et le corps. À la charnière des deux, c'est l'âme, le psychisme. Je pourrais comparer cela à une image peut-être simple. Imaginez une chambre secrète. Une chambre dans laquelle vous, observateur extérieur, vous ne pouvez pas pénétrer. Mais vous savez qu'elle est pleine de trésors et vous ne pouvez pas les découvrir. Entre vous et cette chambre, il y a une porte. Cette porte voit, vous voit tout d'abord, et elle voit à l'intérieur de la chambre. C'est ça l'âme. Le psychisme, c'est une vue sur nous-mêmes, l'intelligence capable d'analyser à travers les émotions, l'intellect, etc., ce que nous voyons nous-mêmes, qui est temporaire, et aussi l'âme et cette faculté que nous avons d'avoir des pressentiments spirituels, d'avoir un sens que nous sommes éternels. Si l'homme connaît le sens de l'éternité que Dieu a mis en lui, c'est parce que, grâce à cette partie invisible de l'âme, il en a le pressentiment. D'autant plus fort qu'il s'approche de la mort, par exemple. Cette âme est l'objet de tous les soins de tous ces chers psys qui parcourent le monde. Que ce soit des gens du monde séculier ou dans le monde chrétien. On nous dit maintenant, bien, quand tu as mal aux yeux, tu vas voir l'oculiste. Si tu as mal à l'âme, si tu as des blessures du passé, eh bien il faut voir un psychothérapeute. Ça semble logique. Et on oublie que c'est une porte qui a deux façades. Une façade visible, mais une façade invisible. Et tous les problèmes prennent place dans l'invisible. Car si nous avons été blessés dans le passé, c'est que l'adversaire avait une prise sur nous. C'est que dans ce passé, notre être, n'étant pas soumis au Seigneur, n'étant pas protégé par le sang de l'agneau, était accessible à ce qui est mal et les blessures s'en sont suivies. Elles ont démoli tant la face extérieure de la porte que intérieure. Alors quand on prétend soigner l'âme, on s'attaque à ce qu'on voit de l'âme, mais on oublie, parce qu'on ne peut pas le faire autrement, à ce qu'on ne voit pas. On oublie l'autre côté. C'est impossible. Et alors ces gens qui vous soignent replâtrent la porte, qui est pleine de trous, d'un seul côté. Et la porte de l'autre côté n'est pas réparée. Le résultat, c'est l'image que je vous ai livrée hier du manteau soigneusement rapiécé, dont la déchirure est encore plus grande après. Parce que ça ne tient pas. Mais en attendant, ça provoque un soulagement. Cela crée un soulagement. J'en ai connu qui ont vécu pendant des années un soulagement authentique. En fait, que s'est-il passé? Pourquoi y a-t-il soulagement? Parce que le fait de mettre son doigt sur une blessure du passé, de la déterrer, de la sortir, la mettre en évidence, dire voilà ce qui s'est passé, voilà la raison profonde. Et même, beau grand sacrilège, de dire, comme j'ai entendu, même la sœur du président Carter, l'écrire même, on prend Jésus par la main, comme si Jésus se laisse faire. On prend Jésus par la main et on va dans le passé avec lui, on reparcourt tout le passé, on fait un petit voyage touristique dans un dédale de ruines et de puanteurs, avec Jésus par la main, et on ressort guéri. Voilà, la recette est trouvée. On ne sort pas du tout guéri. Parce que ce qui se passe, c'est que cette blessure qu'on a mise en évidence retombe. Car la seule puissance qui la guérisse, c'est la croix. Parce que la croix n'a pas été appliquée, la blessure redescend à un niveau plus profond du subconscient. La partie qui était douloureuse est soulagée, on reste pendant des années soulagé, et un beau jour, ça repart. Et alors là, c'est terrible. Quand la Bible dit « la déchirure revient », elle ne dit pas « revient », elle est encore plus grande. Et c'est la réalité. En général, c'est le suicide. Et après 50 ans de cette thérapie, maintenant il y a un cri d'alarme aux États-Unis, je l'ai dit hier, le taux de suicide augmente en proportion catastrophique. Nous n'avons pas encore assez de recul ici, mais il est temps de crier « stop, halte à la casse ». Je déplore le fait que nous avons un système légal qui protège l'individu, qui se veut de protéger l'individu au niveau d'un cambriolage, d'une agression, des accidents de la route, partout, on protège le corps, mais on laisse faire les psys du monde qui nous démolissent, et c'est autorisé par la loi. Car soigner quelqu'un sur le plan psychothérapeutique, c'est le démolir à long terme. Voilà ce que j'ai à dire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Je déchire, je prends une déchirure, je la rapièce et je provoque une déchirure encore plus grande comme résultat. Le Seigneur ne veut pas d'un manteau rapiécé, il veut changer complètement le manteau. Donc la solution de ceux qui souffrent du passé, des blessures du passé, c'est une remise à la croix de ce passé. Parce que la croix détruit le passé, comme ça on n'en parle plus. Vous savez, nous sommes morts avec lui. Morts, et le baptême montre, nous sommes enterrés avec lui. Examiner notre passé, c'est reprendre le cadavre, le remettre sur une table et faire du post-mortem. Où dans la Bible il est indiqué qu'il faille faire du post-mortem? Nulle part. Et ce que je déplore, surtout dans le monde chrétien, parmi tous ces psychothérapeutes soi-disant chrétiens, qui veulent guérir au niveau de la guérison intérieure, c'est une absence totale de base biblique. Ça fait 15 ans que j'étudie ce phénomène. J'ai un dossier complet et je vous assure qu'il y a un réquisitoire très lourd contre eux. Si j'étais ministre de la Santé, je leur interdirais pignon sur rue, en disant qu'ils font plus de mal peut-être que ceux qui vous rentrent dedans un dimanche soir dans une voiture. C'est aussi grave que cela. Et je ne mâche pas mes mots. Je sais que je me mets contre moi un tas de personnes, et surtout de ces gens-là, qui ne veulent jamais discuter la chose avec moi. J'ai essayé de provoquer des face-à-face, comme la démocratie anglaise m'a appris. Quand quelque chose ne va pas, on prend les opposants d'une thèse et ceux qui sont favorables, on les met face-à-face devant le public et ils discutent. Ici, je n'ai jamais trouvé personne qui veuille discuter cela face-à-face avec moi. Aurait-il une mauvaise conscience? Eh bien, s'ils ont une mauvaise conscience, c'est déjà un bon départ. Que Dieu agrandisse ce malaise jusqu'au jour où il lâche prise et cesse de nous torturer, de manipuler l'être humain, bien qu'il s'en défende. Mais c'est de la manipulation malsaine qui détruit l'être humain. Que chacun qui veut me suivre se charge de sa croix. Le passé, c'est fini voici, toutes choses anciennes sont passées. Est-ce que la Bible ment? Quand elle dit que tout est passé, c'est passé. Si je ressens encore des blessures, c'est que la puissance de la croix n'est pas passée. C'est que je suis entré dans une demi-conversion. J'ai accepté, comme nous le disions hier, le pardon de mes péchés, mais j'ai oublié l'essentiel, la source de ce péché, qui est le pécheur. Et je suis entré dans la vie chrétienne avec la source du péché toujours présente. Avec ces douleurs du passé, ces tentations de faire du désordre dans ma vie, etc., etc. La croix seule me délivre à jamais du passé. J'ai vu des retournements remarquables de personnes, mais absolument torturées dans leur passé, défigurées par ce passé, sur lequel était appliquée la puissance de la croix dans une prière authentique, une prière de foi. Quand je prie, je crois que la puissance de la croix a tout effacé. Et à ce moment-là, la personne était délivrée, mais comme un autre à sa place, absolument remise à neuf. Elle avait enfin revêtu le manteau neuf que Jésus lui avait préparé dès avant la fondation du monde. Voilà la réalité. Alors, soyons sur nos gardes. Ne commençons pas à nous rendre intéressants auprès des psychothérapeutes et autres qui pensent, d'ailleurs, qu'ils sont très utiles à la société et qui, peut-être, quelquefois font preuve de bon sens. La cure d'âme à la Paul Tournier, c'est une cure de bon sens basée sur l'Évangile. Reprenez toute son œuvre. Je ne sais pas ce qu'il vient maintenant, mais ce qu'il a fait jusqu'à là, c'était du bon sens basé sur la parole. Il a toujours cru, à juste titre, que le seul miroir de l'homme, c'est parce qu'il a appris en faculté, c'est la Bible, le miroir de l'homme, qui nous montre dans nos moindres recoins ce que nous sommes. Pas seulement le psychisme visible, mais l'invisible. Voilà le véritable miroir de l'homme. Voilà la véritable guérison, le manuel de guérison qui montre par où on entre, par la croix, vers une guérison authentique. Tout est cohérent dans la parole, il n'y a pas d'ombre ni de variation, il n'y a pas de coin sombre où l'on peut glisser des théories qui nous viennent d'un monde qui n'est pas soumis à la puissance de Dieu. Et je déplore hautement le fait que nos églises se soient laissées envahir, à commencer par les États-Unis, ça dure depuis 50 ans et même plus, par ces théories, parce que l'homme ayant piétiné, n'ayant pas vécu une repentance authentique, se tourne vers le psychothérapeute, même chrétien. Eh bien, frères et sœurs, nous arrivons à la conclusion. Nous sommes maintenant dans la possibilité de suivre le Seigneur, parce que nous avons réalisé quelle était cette marche. Ce n'était pas du mimétisme, qu'elle se faisait dans le corps de Christ, c'est-à-dire là où le Seigneur nous place, même si l'Assemblée ne nous convient pas. Ce n'est pas une question qu'elle nous convienne, c'est peut-être plus une question que nous convenions à l'Assemblée. Ça, c'est la vraie question. Parce qu'à force de dire qu'elle ne nous convient pas, on finit par être un poison. Le Seigneur sait, son corps est en pleine gestation. Vous avez vu déjà la photo d'un embryon dans le sein maternel? C'est loin d'avoir la beauté d'un bébé qui vient de naître. Alors, s'il fallait refaire des retouches d'esthétique déjà dans le sein maternel, voyez quel dégât on ferait. Il est hors de question de faire des retouches. Si l'Église se fourvoie, si elle manque de vie spirituelle, eh bien, soyons l'instrument par lequel elle arrivera. Pas à nos conditions. Soyons un instrument du Seigneur suivant son temps et son plan. C'est ça, renoncer à soi-même. À ce moment-là, je peux me charger de ma croix et le suivre, parce que sans cesse j'aurai avec moi la puissance pour terrasser toute velléité de ce moi qui veut toujours surnager et s'opposer. Et un jour je quitterai cette terre, le moi sera définitivement dans la terre, et un jour le corps ressuscitera, mais parce qu'il sera passé par une mort, le moi lui ne reviendra pas avec. Ce sera un corps glorifié, unique, ce ne sera pas tout le monde semblable, ce ne sera pas une uniformité, il sera unique, mais il sera remarquable de beauté éternelle. Voilà ce à quoi nous sommes appelés en fonction de cette perspective. Et j'aimerais lire, pour terminer notre méditation ce matin, ce passage de 2 Corinthiens au chapitre 4, les versets 16 et à 18. C'est une exhortation de l'apôtre Paul qui va exactement dans le prolongement de ce que nous avons étudié tout au long de ces sessions. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Que Dieu nous bénisse.